bien, le revoilà. Vainqueur de la terrible lutte interne qui agite Radio Courtoisie. Vous savez que Radio Courtoisie est en proie à une espèce de guerre intestine terrible entre l'extrême droite et l'extrême gauche cosmopolite. Alors, on a cru pendant un moment que Serge de Becaïs avait été éliminé par l'extrême gauche cosmopolite. Faux! Tout faux, c'est zéro pour la question, il n'a pas été éliminé. Tentative ratée, il reprend le pouvoir, et son remplacement par Claude Reichmann, qui incarne vraiment, comment dirais-je, la gauche la plus fanatique, Claude Reichmann. On avait cru que l'extrême droite que j'incarne pouvait être remplacée à ce micro par l'extrême gauche qu'incarne Reichmann. C'est raté, j'ai repris le pouvoir à Reichmann, j'ai cassé un bras, ce qui fait qu'il ne peut plus parler dans le micro, et on est tranquille. Voilà. Donc c'est Serge de Becaïs qui vous parle. J'espère que vous êtes content de voir que je suis revenu. Et ben tout ça c'est pas vrai. Donc ce qui est vrai c'est que je suis revenu, mais ce qui est pas vrai c'est que la vérité c'est que j'étais un petit peu fatigué, même extrêmement fatigué, et même que je reste encore un petit peu fatigué à l'intérieur de la tête comme vous pouvez le constater. Mais physiquement ça va mieux. Je ne tousse plus qu'une fois toutes les deux minutes. Donc ça va un petit peu calmer le jeu de l'émission. Et voilà, alors on va parler de plein de choses, on va parler du résultat de ces élections, on va parler du nouveau gouvernement avec Emmanuel Ratier. Vous savez qu'Emmanuel Ratier, qu'on avait déjà reçu, est l'auteur de l'auteur, directeur, rédacteur, éditeur, enfin tout ce qu'on peut faire avec un heure, de l'Encyclopédie politique française, qui est un bouquin assez étonnant, un travail de titan du fichier, je sais pas, on en avait parlé, et c'est probablement l'homme qui connaît le mieux la classe politique, enfin qui a le plus de fiches sur la classe politique française. D'ailleurs, au fait, il faudra savoir si la commission informatique et liberté... on verra ça tout à l'heure. Donc, avec Emmanuel Ratier, on va parler du nouveau gouvernement. Comment il s'est constitué, par qui sont ces gens, est-ce qu'il y a des francs-maçons, est-ce qu'il y a des fils à papa, est-ce qu'il y a des fils d'archevêque, est-ce qu'il y a... Bon, tout ça, quoi. Tout ce dont on peut parler, et on parlera pas des choses dont on ne peut pas parler. Voilà. Ensuite, je recevrai des agriculteurs qui nous parleront aussi de leur situation et de leur travail et de leur regard sur le changement. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, le général Brancion viendra nous parler de Dien Bien Phu. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Dien Bien Phu, les artilleurs dans la tourmente ». Et c'est vrai qu'on parle souvent à propos de Dien Bien Phu, de la Légion étrangère, des parachutistes. Mais on a un peu négligé dans les récits qui ont été faits de cette terrible bataille, on a un peu négligé les artilleurs. Et il faut rendre hommage au général Brancion d'avoir eu l'idée d'écrire ce livre. On en parlera avec lui. Et puis ensuite, on recevra une dame qu'on a déjà reçue, qui s'appelle Madame Boucher, et qui a pris en main le destin d'un petit village de France qui est menacé par les bétonneurs, qui s'appelle Signy-l'Abbaye, et elle nous dira où elle en est. On avait déjà parlé de ce sujet-là. La nouvelle de la semaine, c'est quand même... moi, je trouve la nouvelle de la semaine, c'est quand même le fait que 2/3 des Américains, s'ils recevaient un chèque de $100 signé Bill Clinton, préféreraient mettre le chèque à la banque plutôt que de faire encadrer le chèque dans leur salon. Moi, je sais pas, si je recevais un chèque de Mitterrand de 500 francs, parce que $100, c'est à peu près 500 francs, qu'est-ce que je ferais? Je crois que je l'encadrerai parce que de toute façon il serait probablement en bois. Donc ça serait toujours quelque chose de pour décorer les murs de mon salon. À propos du Front National et des résultats de ces élections, je vais vous dire une chose qui va faire très probablement susciter de vives réactions chez nos auditeurs. Mais moi je les trouve très bien, les résultats de ces élections, parce qu'au moins les choses sont parfaitement claires maintenant. D'abord, ça va nous permettre de voir Marie-France Tirebout un peu plus souvent, puisqu'on ne la voyait plus, ce qui est désagréable, parce qu'elle est bien agréable à, elle est bien agréable à regarder, donc c'était ennuyeux de ne plus la voir. Elle était tout le temps dans ce trou à rat ou dans ce fromage, je sais pas comment il faut dire, de l'Assemblée nationale. Maintenant, elle va être un peu plus disponible pour venir nous voir, pour nous parler, etc. Et puis, un député, ça permettait à la démocratie de faire croire qu'elle était quelque chose de sérieuse. Ou de sérieux, pardon. Tandis que maintenant, c'est clair, 12,5% des suffrages ne représentent aucun député. Donc on sait à quoi s'en tenir sur la démocratie. On sait maintenant ce que moi j'ai toujours dit, c'était un attrape-couillon. Et quand bien même, d'ailleurs, on aurait eu... Imaginez que le Front National ait réussi un exploit, on aurait dit c'est un exploit formidable, il a 50 députés. Qu'est-ce que ça aurait changé au fond ? Hein, rien du tout, parce que les autres, de toute façon, avec leurs 450 députés, ils sont inamovibles, ils feront ce qu'ils voudront. Et on aurait eu l'impression que la droite nationale était peu ou prou associée aux bêtises que ne va pas manquer de faire le Parlement. Parce que le Parlement fait des bêtises, je dis des bêtises parce que ça fait 15 jours que je ne suis pas venu à ce micro, donc j'ai des réserves de courtoisie. Mais donc ça fait pratiquement 2 siècles que le Parlement fait des bêtises. Alors on peut s'attendre à ce qu'il continue. Tandis que là, vraiment, on pourra dire, la droite nationale n'y vaut rien, elle n'a rien à voir avec ses magouilles, elle n'a pas de député, elle n'a pas de maire, elle n'a pas de sénateur, elle a très peu d'élus régionaux, elle a, bon. Donc, quand la valse des voleurs, des corrompus, des magouilleurs, des prébandiers va recommencer, d'ailleurs elle s'est jamais arrêtée, eh bien nous, on pourra regarder ça de notre fenêtre en rigolant. Et puis, un jour viendra où les choses changeront dans le bon sens. Et elles vont changer dans le bon sens, parce que le résultat de ces élections, si on le regarde avec beaucoup d'attention, c'est extrêmement prometteur. Par rapport aux législatives de 88, où le Front avait obtenu 10% des voix, 9,8 exactement, l'augmentation est considérable, puisque cette fois-ci, le pourcentage est de 12,4. Ce qui veut dire qu'à consultation égale, l'augmentation, elle est de 40%, l'augmentation du nombre des suffrages. Et, il y a autre chose qui est encore plus intéressant. C'est que, normalement, entre les deux tours, le Front aurait dû perdre pas mal de suffrages, puisque le vote utile, ce qu'on appelle le vote utile, aurait dû jouer à fond. Or, il faut savoir que 103 candidats du Front National se sont maintenus, et sur les 103, 95 ont gagné des voix, au total près de 330 000 voix, et 8 en ont perdu très très peu. Le gain total des voix, c'est 330 000. Donc il y a 330 000 électeurs de plus qui ont voté pour les candidats du Front National au deuxième tour qu'au premier. Et autrement dit, la progression est de plus de 8%. Il faut savoir aussi, ça personne ne l'a dit ou très très peu de gens l'ont dit, que le Front National a dépassé 30% des suffrages dans 50 circonscriptions. C'est quand même pas rien. Qu'il a dépassé 40% des suffrages dans 12 circonscriptions. Dans l'Eure-et-Loire, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Et quand on considère un sondage qui a été sondage sorti des urnes, qui a été fait par BVA Libération le 21 mars, on s'aperçoit que le Front National recrute essentiellement chez les 18-24 ans, c'est-à-dire chez les jeunes électeurs. Bon, moi je suis pas jeuniste, mais il faut reconnaître que un parti qui prétend gérer l'avenir, il vaut mieux qu'il ait des électeurs jeunes plutôt que des électeurs vieux. C'est plus utile, c'est plus exploitable directement quand on veut, je le répète, gérer l'avenir. Or, il y a 15% de ces électeurs qui sont des 18-24 ans, et en ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, 18% sont des ouvriers, alors que seulement 17% sont des artisans, des petits commerçants et des petits chefs de petites et moyennes entreprises. Ce qui est intéressant à noter, il y a plus d'ouvriers qui votent pour le Front National que d'artisans et commerçants et chefs d'entreprise. C'est pas forcément un avantage, ça fait rien, ça n'a aucune importance réelle, mais c'est intéressant parce que ça détruit le discours de l'opposition au Front National, c'est-à-dire de tous les autres partis qui disent que le Front National est un parti néo-poujadiste. Hein, c'est un parti de petits franchouillards mécontents. Bon, c'est généralement comme ça qu'on décrit aimablement la classe des, si tant est qu'il y a une classe d'ailleurs, des ouvriers, des artisans, des commerçants et des chefs de petites entreprises. Encore un détail intéressant, 17% des inscrits à l'ANPE ont voté pour le Front National et 20% de ceux qu'on appelle des défavorisés. Ce qui veut dire que le Front National est perçu en France maintenant comme un recours contre la misère et contre le chômage, par beaucoup de gens, par un Français sur cinq. Alors, c'est quand même ça, quelque chose qui me paraît tout à fait positif. Oui, monsieur Ratier.
Oui, en plus, quand on voit le pourcentage d'étrangers qui sont membres de la NPE, enfin qui pointent à la NPE, on peut considérer qu'il y a au minimum un Français sur quatre qui est chômeur, voire un Français sur trois qui a voté pour le Front National. Puisqu'il y a énormément d'immigrés qui pointent à la NPE qui, évidemment, quand même, n'ont pas encore le droit de vote.
Oui, absolument. Ça, c'est très important à souligner. Alors, je crois qu'il ne faut pas du tout avoir un sentiment de déception en face du résultat de ces élections. Bon, d'abord, parce qu'il faut quand même se réjouir de voir les socialistes ficher le camp au bout de 12 ans de carnage et de catastrophe. Est-ce qu'il faut se réjouir de voir ce qu'on appelle la droite? J'ai vu que l'AFP appelait ça la droite. Remplacer les socialistes, j'en suis pas absolument certain, parce que je suis pas absolument certain que ces gens-là soient de droite. Et d'ailleurs, eux-mêmes n'en sont pas certains, puisque l'excellent monsieur Toubon, ministre de la Culture, interviewé par Globe, Globe Hebdo, répond, on lui pose la question, on lui dit, son intervieweur, se dit, depuis que je vous écoute, je me demande ce qui fait de vous un homme de droite. Effectivement, quand on lit l'interview, on se le demande aussi. Et Toubon répond, mais qui vous dit que je suis un homme de droite? Voilà. Donc effectivement, si Toubon lui-même, qui il y a quelques années, je veux dire à l'époque où il entretenait des relations fort amicales avec Jean-Claude Goudeau, qui était le directeur de Minute, Toubon à l'époque était présenté vraiment comme l'homme de droite par excellence. C'était même un dur, il était considéré comme un dur au sein de la droite gaulliste. Maintenant, il froufroute, il explique que M. Lang a fait un travail formidable, que tout ça est très très bien. Il explique que... alors on lui dit, je ne peux pas vous recommander de lire Globe parce que ça serait vraiment un mauvais coup à vous faire, mais cette interview est quand même sacrément intéressante. Il commence d'ailleurs, une des premières questions, on lui dit, il y a un divorce entre la droite et les créateurs, comment pensez-vous y mettre un terme? Alors il répond, maintenant le challenge est que ce regard, etc., etc. Ça veut dire que le ministre de la Culture française, quand il parle français, il parle la française, il dit le challenge. Il ne dit pas le défi comme n'importe quel comte franchouillard, il dit le challenge comme n'importe quel brillant jeune élève des grandes écoles britanniques et américaines. The challenge, n'est-ce pas? Le challenge. Et puis, c'est donc quelques lignes plus loin, l'intervieweur ou l'interrogateur lui dit, lui demande, le monde de la culture, non, c'est pas ça qui est intéressant, il lui dit, vous êtes également ministre de la francophonie, pensez-vous qu'il y a un danger pour la culture française, une forme d'impérialisme qui nous menace? Et là, Toubon refuse carrément de répondre. Il répond complètement à côté. Je crois que la bataille, la compétition qui se joue dans le monde est aussi une compétition culturelle. Je veux défendre et promouvoir notre culture. C'est partie prenante de la compétition mondiale. Et c'est un atout unique dans le jeu de la France. Alors je vous relis la réponse. Si vous comprenez, vous êtes gentil, vous m'envoyez un petit mot. Parce que j'ai lu cette réponse à peu près 76 fois. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. On lui demande si l'impérialisme, il y a une forme d'impérialisme qui menace la culture française. Et on pose la question, nommément, au ministre de la francophonie qu'il est. Et il répond, je crois que la bataille, la compétition qui se joue dans le monde est aussi une compétition culturelle. Je veux défendre et promouvoir notre culture, c'est partie prenante de la compétition mondiale et c'est un atout unique dans le jeu de la France. Voilà, donc quand on interroge M. Toubon sur la francophonie, il répond quelque chose que aucun francophone au monde ne peut comprendre, je crois. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Bon. Mais il sait que challenge, c'est un mot joli. Voilà. Alors, toujours dans la série « Comment s'exprime un homme de droite », le journaliste de Globe Hebdo lui dit « Le monde de la culture est durement frappé par le sida ». On se demande bien pourquoi, d'ailleurs, le monde de la culture, spécialement, est frappé par le sida. Moi, je m'interroge. Allez-vous prendre part à ce combat? À quel combat? C'est que, quand le monde de la culture est durement frappé par le sida, allez-vous prendre part à ce combat? Quoi? Pour frapper encore plus fort?
Il va se défoncer, peut-être.
Oui. Ben, en tout cas, oui. Alors, il répond, je m'en sens tout à fait partie prenante. Vous avez remarqué que tout le monde est toujours partie prenante. Mais dans ce cas-là, vraiment, on peut dire que le mot est mal choisi, hein. Je m'en sens tout à fait partie prenante. Tous les jours, je vois disparaître autour de moi des artistes, des comédiens, des cinéastes que je connais et qui, quelquefois, sont mes amis. Moi, je ne vais pas être désagréable, mais je me demande qui fréquente cet homme-là. Bon, continuons. Enfin, c'est un coup de téléphone.
Il faut savoir que le seul journal qui se flatte de lire tous les jours, c'est Libération.
Oui, c'est ça. Alors il continue, c'est un coup de téléphone, un tel est malade, un tel vient de mourir, chaque fois qu'il y aura au sein du gouvernement à privilégier l'action de prévention et de lutte contre le sida, j'y prendrai toute part. On lui demande, les colonnes de Buren, ça vous plaît? J'ai toujours pensé qu'une fois installées, il fallait les maintenir, au nom d'un principe intangible qui est le droit moral de l'artiste. Oui, Emmanuel?
Oui, en réalité, il faut... Là, M. Jacques Toubon raconte n'importe quoi.
Non.
Parce qu'il faut savoir que les colonnes de Buren avaient été commandées par Jacques Lang, mais n'avaient pas été encore érigées en mars 86.
C'est Léotard qui les a fait.
Oui. Et il y a une association qui s'est créée, qui est l'association du 17 mars 86, qui a exigé la construction des colonnes de Buren à l'intérieur du Palais Royal. Et une des principales personnalités qui animait cette association, c'était Mme Lise Weiler. Et Mme Lise Weiler, c'est Mme Toubon à la ville.
À Lombon.
Et elle a fait
Toubon.
Oui, et elle a fait d'importantes... C'était la première Mme Seguin aussi. Et elle a fait de très grosses pressions auprès du gouvernement, enfin auprès de son mari, de telle manière que les colonnes soient construites. Donc il ne faut pas dire, une fois que les colonnes étaient érigées, on les garde. Mmh. C'est le gouvernement censé être de droite auquel participait M. Léotard qui les a construites. Et la mairie de Paris pouvait parfaitement s'y opposer.
Et alors, dans la foulée, on demande à M. Toubon, c'est là que se pose la fameuse question. L'intervieweur, à force de poser des questions et d'avoir des réponses comme ça, lui dit, mais écoutez, je comprends pas, moi, depuis que je vous écoute, je me demande ce qui fait vous un homme de droite. Et c'est là qu'il répond, qui vous dit que je suis un homme de droite? Et il ajoute, pour moi, ça n'a pas de signification, peut-être parce que je suis gaulliste. Je n'ai jamais vu que le général de Gaulle soit autre chose qu'un homme de droite, un homme de gauche, un homme de nulle part. On me dit, moi, j'ai toujours dit, entendu dire que c'était un homme de Londres, mais... On me dit que je voudrais mettre mes pas dans ceux de Malraux. Je sais pas, qui lui a dit ça à Toubon? Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui lui dit « Ah, monsieur Toubon, vous voulez mettre vos pas dans ceux de Malraux ?» Je crois pas que quelqu'un lui ait dit ça. Enfin, lui, il prétend qu'on lui a dit.
Pour le moment, il n'a pas encore pillé de tombe dans le sud-est asiatique.
Il va porter les chaussures de Malraux comme Mitterrand porte la veste de Gaulle. Alors, il répond « C'est me faire beaucoup d'honneur, car je n'en ai ni le talent ni l'œuvre. » Oui. Mais Malraux était un homme de gauche, il ne faut jamais l'oublier. Vous voyez la référence. Et il a été en matière de culture, alors écoutez bien, l'un des plus fervents défenseurs de l'entité de la communauté nationale, rassemblée autour de sa culture. Et encore une fois, si vous avez compris, vous m'envoyez un mot, parce que l'entité de la communauté nationale rassemblée autour de sa culture, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'identité nationale, ça je sais. La civilisation française, je sais ce que ça veut dire, mais l'entité de la communauté nationale rassemblée autour de sa culture, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et surtout, à propos de Malraux, c'est vraiment se moquer du monde, parce que si vous ne comprenez pas, vous allez voir à l'opéra, vous regardez le plafond, vous allez voir ce que c'est que l'entité de la communauté nationale rassemblée autour de sa culture. Voilà, tout ça pour vous dire que... On va parler de ce gouvernement plus à fond, mais je voulais quand même évoquer M. Toubon. Ça me paraissait intéressant, par contraste avec quelque chose que je vais vous faire écouter tout de suite, et qui est la dernière minute du dernier discours de Jean-Marie Le Pen pendant la campagne électorale. Alors, vous venez d'entendre des extraits du discours du propos de Jacques Toubon à Globe Hebdo. Jacques Toubon, il est ministre de la Culture.
Et de la francophonie.
Et de la francophonie. Et maintenant, vous allez entendre la bête immonde.
Je vous demande, mes chers compatriotes, où que vous soyez, soit au-delà des mers, soit dans notre belle île de Corse, soit dans tout le territoire métropolitain, nous sommes à la fin du parcours, mais nous avons une belle pointe de vitesse. Nous sortons du dernier virage, nous allons faire mieux que ce qui nous a été promis, et ceci est très important, parce que pour nous la bataille ne s'arrêtera pas le 21 mars, elle ne s'arrêtera pas le 28 mars, elle s'arrêtera par la mise en place d'une politique nationale seule capable de sauver la France. Et alors, avant de prononcer notre nunc dimittis, avant que justement la mort bienveillante ne nous décharge de ses responsabilités, nous avons en commun cette vibration de l'esprit, du corps et de l'âme, ce sentiment d'appartenir à une communauté vivante qui souffre certes, mais qui lutte et qui espère. Et nous avons la certitude de voir derrière nous les générations suivantes continuer notre combat, N'ayez pas peur, mes jeunes camarades, n'ayez pas peur, ces gens qui sont vos adversaires et vos ennemis ne vous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levez-vous !
Voilà, levez-vous. Alors, on s'est tous levés, et puis depuis on s'est pas rassis. C'est un peu fatigant, mais je crois qu'on va quand même rester debout pour les années qui viennent. Et qu'effectivement, quand on regarde nos adversaires et nos ennemis, comme dit Le Pen, quand on est debout, on s'aperçoit qu'ils sont, eux, tout petits et très vilains, avec des grandes oreilles. C'est la fameuse chanson « Tout petit avec des grandes oreilles ». Voilà. Alors, je voudrais rassurer un auditeur qui... Monsieur... C'est un auditeur X, un auditeur à qui on ne la fait pas, dit-il sur son fax, de Paranoïac. Petit village du Lot. Il a de la chance, il est un paranoïaque dans le Lot, il entend Radio Courtoisie. Et il nous dit, qu'est-ce qui nous prouve que le Bekech qui parle est le vrai Bekech? Absence de tout, pusillanimité annoncée dans les révélations sur le gouvernement, car il a dit, on ne parlera pas de ce dont on ne peut pas parler. Et voilà, c'est vrai, monsieur, vous avez raison, vous m'avez reconnu, je ne suis pas celui que vous croyez. Je continue. Alors, vous avez vu la différence? Effectivement, là, on a entendu le discours hystérique d'un fasciste, alors que juste avant, on avait le discours de culture d'un homme de gauche. Et ça fait vraiment la différence, c'est le challenge, quoi, en quelque sorte. Dont un auditeur me dit, c'est un mot français, challenge, que les Anglais nous ont volé et que nous ont rendu. Ben, je leur dis, gardez-le. Et comme dit l'animateur d'une association pour la défense de la langue française, et merde à la langue d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. C'est joli, non? Non, vous êtes anglophone, vous, au fil, Emmanuel Ratier.
Non, mais...
Pas vrai.
Non, ce que je voulais dire sur Jacques Toubon, c'est que ce que vous disiez était assez exact, parce qu'il y a une personne, semble-t-il, qu'il connaît assez bien, c'est son épouse actuelle. Et dans une interview qu'elle avait donnée il y a quelques années, elle avait déclaré qu'il était entouré par des gens extrêmement pénibles, mais que c'était la personne la plus socialiste qu'elle ait jamais rencontrée de sa vie.
Voilà, la vérité sort de la bouche d'une femme, et non pas du cheval, en l'occurrence. Toujours à propos de la bête immonde, j'ai reçu d'un auditeur un document que je vais lire, parce que vous savez que j'aime bien moi, tout ce qui est astrologie et tout, ça me fait toujours rigoler, mais c'est intéressant. Alors voilà, c'est un portrait astrologique de... Merci Philippe. Philippe, qui aime bien m'humilier, m'apporte des lunettes pour lire, parce que je vais bientôt faire mes 47 ans. Donc j'ai besoin de lunettes pour lire maintenant. Donc voilà. Et si nous parlions un peu de Monsieur Le Pen, dit cet astrologue, qui s'appelle Fioroni. Né le 20-06-28 à la Trinité-sur-Mer à 3h. Point. Alors là commence le portrait astrologique de Le Pen. Je vais lire des choses que je ne comprends pas. Mais comme vous ne les comprendrez pas non plus, ça gênera personne. L'ASC se trouve à 29 degrés du Bélier et son MC à 23 degrés du Capricorne. Le Soleil se trouve en Gémeaux et la Lune en Cancer. Je croyais que c'était Mitterrand qui avait la Lune en Cancer. Non, apparemment c'est pas ça. Mars et Jupiter encadrent l'ASC. Cette configuration est conjointe à l'ASC de la Ve République. Les planètes de son thème font de nombreux aspects avec celles du thème de la Première République française. Oui, c'est ça. Voilà. L'activité, alors, c'est là que ça devient intéressant réellement. L'activité et la passion dominent. L'intelligence est éveillée. Son caractère peut aller du degré animal à des facultés supérieures. Vous savez, quand on parle de Le Pen, si on ne dit pas la bête immonde ou le degré animal et tout, on a des emmerdements après. C'est une espèce de langage obligatoire. Donc, en l'occurrence, là, comme le portrait est plutôt positif, il faut quand même dire que son intelligence, elle peut aller du degré animal à des facultés supérieures. Il a par moment un courage tranquille et un sens de la mesure, ce qui ne l'empêche pas d'être un militant propagandiste convaincu. C'est formidable l'astrologie, hein. C'est d'une lucidité extraordinaire. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont arrivés à trouver? C'est que Le Pen était un militant propagandiste convaincu. Hein? C'est étonnant, non? Avec beaucoup d'orgueil. Oui, alors parce que dans le système, là, il faut quand même que toutes les cinq lignes, il y ait un truc désagréable. Donc on a vu tout à l'heure qu'il avait une intelligence animale. Maintenant, on voit qu'il a beaucoup d'orgueil et, entre parenthèses, imbu de sa supériorité. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus, il est imbu de sa supériorité.
Et l'intelligence animale, c'est un peu le cerveau reptilien.
C'est le cerveau reptilien que tout le monde n'a pas, bien entendu. En tout cas, pas les journalistes du Monde. Parce qu'un jour, j'avais fait un papier en expliquant qu'un journaliste du Monde pensait avec son cerveau reptilien, il m'a fait un procès. Son Saturne en Sagittaire, vous vous rendez compte que Le Pen a un Saturne en Sagittaire, je ne le savais même pas, je croyais le connaître depuis 25 ans, et je ne savais pas ça. lui accorde droiture et rectitude. C'est un surmoi puissant. Dans les années prochaines, je ne serais pas étonné qu'il occupe un poste important en France, car l'instabilité donnée par Neptune sera corrigée par Pluton, planète de reconstruction. D'autre part, son MC entre Saturne et Uranus marque surtout le travail patient dans un domaine généralement peu commun et qui demande des décisions, de l'intuition et des connaissances précises. Ce n'est pas une configuration facile, nous dit Monsieur Fioroni, dans ce journal dont malheureusement je n'ai pas le titre. Attendez, c'est le numéro de mars 93 de la Gazette de Monaco.
Oui, alors, il se trouve que je ne pensais pas en parler, mais j'avais apporté un certain nombre de petits textes. Alors, je vais vous lire une petite description, c'est pas très long. C'est un essai de morphopsychologie qui est paru en 1991 et qui a été signé par un avocat toulousain qui s'appelle Maître Jean-Paul Escudier et qui est un militant RPR local. Alors, il se trouve qu'il ne peut pas donc être soupçonné d'antigaullisme primaire. Il se trouve que dans son bouquin qui est paru l'année dernière, il y a deux ans, enfin, il parle de Balladur. Alors j'ai regardé ce qu'il disait sur Balladur. Alors à la différence...
Donc après le portrait astrologique de Le Pen, on a le portrait morphopsychologique de Balladur.
Voilà. Selon lui, Balladur, il se classe dans la classe des sous-émotifs, sous-actifs secondaires, comme l'étaient Louis XVI et Louis XVIII, comme les sont Raymond Devos, Roger Hanin, Philippe Noiret, Alain Poher ou Jean Richard. Les membres de cette catégorie sont introvertis, souvent très intelligents, mais sans réelle vitalité.
Attendez, vous avez dit qu'il y avait Roger Hanin dans le tas ?
Oui. Sans réelle vitalité, volonté de vivre au ralenti. Très bon sens de l'observation, la plupart du temps corpulent. Replié, secret, goût pour la solitude, facilement routinier, ont besoin de sécurité pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ne supportent pas d'être dérangés dans leurs habitudes, très conventionnels, fuient le changement, malhabiles à exprimer leurs sentiments, se laissent choisir plus qu'ils ne choisissent.
Ça, c'est très très drôle. Voilà.
Ben, c'est un peu la description de ce qu'on pourrait appeler un levantin.
Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'est Balladur, puisqu'il est né à
Smyrne.
À Smyrne.
Alors,
c'est une très jolie ville, Smyrne.
Oui. Qui a donné. Je crois que c'est Smyrne. C'est Smyrne. Oui, il est né à Smyrne en 1929. Alors, ça, c'est tout le problème, parce que moi, je n'avais pas réussi à
résoudre. Il faut quand même préciser que levantin, ça n'est rien d'injurieux. C'est originaire des pays du Levant. Hein, voilà. C'est tout, voilà, c'est ça.
Ce qu'on sait, c'est extrêmement difficile de savoir les origines ethniques de la famille Balladur, parce que selon les journaux, selon les déclarations, selon les textes qu'on peut lire depuis une dizaine de jours dans la presse, et ça avait été le même cas quand j'avais préparé mon encyclopédie, on n'arrive absolument pas à savoir si c'est une famille, moi c'est ce que je crois, mais je ne vais pas me tromper, une famille qui serait d'origine marseillaise, enfin de Provence, et qui se serait installée au Levant pour commercer dans l'Empire ottoman, aux alentours de 1760. Mais il y a des gens qui disent qu'en réalité, c'était une famille qui était d'origine ottomane, turque ou arménienne, et qui aurait eu la double nationalité à partir de 1760. Pour le moment, je vous avoue, on n'arrive pas à choisir ni l'une ni l'autre, mais enfin, il y a un livre de généalogie qui doit paraître normalement d'ici 6 mois, dans lequel, je crois, il y aura une généalogie complète de Balladur. On en saura un peu plus.
Intéressant.
Enfin, il faut reconnaître qu'il fait un petit peu ottoman. Bon, oui, il y a toutes les gens qui ont dit qu'il s'appelait, son nom de famille, c'était Balladurian, etc.
Balladurian, en tout cas, ça, c'est d'origine arménienne.
Ouais. En tout cas, c'est totalement fou. Il s'est jamais appelé Balladurian.
Alors, avant de revenir à la suite de notre entretien, Emmanuel, je voudrais répondre pour la 7798e fois à un auditeur. J'espère que c'est pas toujours le même, parce que ça permettrait. Oui, bref. Voilà, cet auditeur nous dit, à Radio Courtoisie, on est un jour pour tout bon, un jour contre. Allez donc comprendre, il faut accorder vos violons. Et un autre auditeur dit, à vouloir critiquer tout bon, Serge de Becquet, je vais faire tirer les oreilles par Jean Ferré, qui est plein d'admiration pour Monsieur Tout Bon. Alors, je vais répondre, donc pour la, comme je le dis, 7000e fois au moins. Et Radio Courtoisie n'est pas une radio idéologique. Radio Courtoisie n'a pas de ligne politique. Radio Courtoisie n'est pas pour la soupe à l'oignon et contre la quiche lorraine. Radio Courtoisie est un rassemblement de bonne volonté qui bénévolement viennent faire des émissions dans lesquelles elles expriment ces bonnes volontés, leur point de vue. et dans lesquelles émissions elles invitent d'autres bonnes volontés à venir exprimer leur point de vue. Alors par exemple, ce soir je reçois Emmanuel Ratier, parce que c'est un excellent journaliste, c'est un homme de dossier qui connaît très très bien la classe politique française, mais peut-être que on a des différences politiques, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur tout avec Emmanuel Ratier, je ne sais pas, c'est possible, j'en sais rien, peut-être par exemple qu'il n'est pas catholique traditionnaliste et royaliste comme moi. Et ça ne m'empêche pas de le recevoir avec plaisir et ça n'empêche pas de venir parler dans le micro. Donc, le problème n'est pas de savoir si je suis contre ou pour M. Toubon. Je dis simplement que on nous dit qu'on a maintenant un gouvernement de droite. D'accord, je veux bien, et qu'il y a un homme qui s'appelle Jacques Toubon, qui est ministre de la Culture de ce gouvernement de droite. Et je dis, moi je veux bien, quand on me dit ça, j'ouvre Globe Hebdo, il doit savoir de quoi il parle, il faut une interview de M. Toubon dans laquelle M. Toubon dit qu'il n'est pas un homme de droite, et qu'il admire les hommes de gauche, et qu'il est d'accord avec les colonnes de Buren, et qu'il est d'accord avec tout ça. Alors je dis, simplement, il faudra qu'il m'explique comment il peut incarner, enfin qu'on m'explique comment cet homme peut incarner la culture d'un gouvernement de droite. Ça ne veut pas dire que Radio Courtoisie est contre Jacques Toubon. Ça veut dire que mon opinion, c'est celle-là. Maintenant, Jean Ferré a peut-être une autre opinion. J'en sais rien. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu. À ma courte honte, on n'a jamais parlé de Jacques Toubon, Jean Ferré, moi. Jamais. On n'a jamais trouvé le temps de parler de ce sujet, pourtant capital. Et j'apprends, cet auditeur en sait plus que moi, j'apprends que donc Jean Ferré est plein d'admiration pour M. Toubon. Peut-être que je vais être viré la semaine prochaine. Enfin, allez savoir, tout est possible, parce que j'aurais dit du mal de Jacques Toubon. Mais je me rattraperai, parce que la semaine prochaine, il y aura Claude Reichmann dans cette émission. Or, Claude Reichmann a invité plusieurs fois à cette émission Jacques Toubon. Robert Toubon, pardon. Je ne sais plus. Le frère.
C'est Robert.
Le Robert Toubon, qui est rédacteur en chef du Quotidien de Paris, et qui est le frère de Jacques Toubon. Donc vous voyez à quel point les choses sont imbriquées. C'est extraordinairement compliqué. C'est très difficile de faire des complots, parce qu'on se prend toujours les pieds dans le tapis en rentrant dans un salon qu'on ne connaît pas, pour égorger l'occupant du salon. Alors, voilà. Et puis, je voudrais vous dire que Jean Ferré ne me tire pas les oreilles, pas plus que je ne tire les oreilles de Jean Ferré. Nous sommes des gens de bonne compagnie. Nous exprimons nos accords et nos désaccords, parce que ça arrive, d'une façon courtoise. Mais je pense pas que le désaccord soit très grave sur Toubon, vous voyez. Parce que si Toubon aime les colonnes de Buren, il me semble me rappeler que Jean Ferré n'était pas fanatiquement favorable aux colonnes de Buren. Sous réserve, je peux me tromper.
Et puis maintenant qu'il y a un ministre de la Culture et de la Francophonie, si Jean Ferré est en bon terme avec Jacques Toubon, il faut qu'il donne une petite subvention. Ça serait quand même agréable.
Plutôt qu'une subvention qui nous donne de nouvelles fréquences.
Voilà.
Sur toute la France, puisque c'est quand même incroyable que la seule radio française
qui défend la francophonie,
soit limitée. C'est bien agréable d'émettre dans ces régions-là, mais on aimait quand même que Paris, région parisienne, Le Havre, Caen, qu'en direction de Paris, la région parisienne, Le Havre, Caen, Cherbourg, Le Mans et Chartres, c'est limiter légèrement la francophonie. Alors je vais proposer un challenge, tiens, à M. Toubon. Et s'il nous donnait, par exemple, son appui pour que le CSA nous accorde des fréquences dans toute la France, ça serait formidable. Et là, je serais obligé de dire, voilà un homme de droite qui se comporte avec le libéralisme d'un homme de gauche. Ou voilà un homme de gauche qui est aussi généreux qu'un homme de droite, on dit comme, ou le contraire. Non. Alors je dirais, merci Monsieur Toubon. Et à ce moment-là, les auditeurs téléphoneraient en disant, ah ah, Beckett a été acheté. Ben, ça veut dire, vous savez que tout est à vendre.
Hein, ou à louer.
Ou à louer. Un auditeur nous rappelle que Charles Pasqua avait dit déjà, je suis gaulliste, donc je ne suis ni de droite ni de gauche. Et il nous dit, c'est une phrase qui va faire école et servir de paravent. C'est tout à fait probable.
Je crois que Simone Veil a d'ailleurs toujours dit qu'elle était de gauche.
Oui, mais c'est pas tant. Simone Veil, elle était... Bon, on va en parler. C'est une ancienne du syndicat de la magistrature qui n'est quand même pas une organisation d'extrême droite. Mais alors, avant de parler de ça, je voudrais répondre à un auditeur, d'ailleurs, qui nous dit... qui nous demande ce qu'on pense, de l'information qui est répétée sur toutes les radios, et notamment sur Europe 1, à la suite de l'arrestation des assassins de Roseau. Et cette station, nous dit cet auditeur, répète sans arrêt que ce sont des gens d'extrême droite très proches du Front National. Alors, je ne sais pas si Europe 1 dit ça, je ne l'ai pas entendu, moi. Mais on peut dire de la façon la plus nette et de la plus claire que c'est un mensonge absolu. Parce que non seulement les gens qui ont... enfin, l'association qui s'appelle l'USDIFRA, dont ferait partie les assassins présumés de Rozou, non seulement cette association n'a jamais été proche du Front National, mais elle lui a toujours été violemment hostile. Il faut rappeler quand même que l'USDIFRA, et notamment dans le Var, a toujours combattu le Front National, et pas seulement dans le Var, mais partout où elle est présente. Son secrétaire général, qui s'appelle Philippe de Massey, a été deuxième de liste d'une liste qui s'appelait Chasse, Nature et Tradition, et qui était une liste fantoche destinée à empêcher le Front National de faire des scores intéressants. Cette liste, à l'époque, dans le Var, était conduite par un communiste qui s'appelait Monsieur Alain Milanello. Donc ça n'a rien d'une liste d'extrême droite, une liste conduite par un communiste, ou alors j'ai jamais rien compris à la politique. Et le président de l'USDIFRA, Monsieur Eugène Ibanez, avait appelé à voter pour la liste dirigée par le communiste Milanello. Alors, dire que ces gens-là sont proches du Front National, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et simple. Et il y a une association de rapatriés, et une seule, qui a des liens, constitués, organiques avec le Front National, et cette association, ça s'appelle le Cercle National des Rapatriés, dont... qui est présente dans toute la France et dont on peut avoir l'adresse et le nom des responsables en écrivant rue du Général Clergerie. On aura toutes les informations sur le Cercle National des Rapatriés, qui lui est vraiment une association de rapatriés proche du Front National. L'USDIFRA n'a rien à voir avec le Front National, sinon une grande hostilité ancienne et confirmée. Alors, l'assassin présumé de M. Rozou, je suis désolé, je sais que ça aurait fait plaisir à beaucoup de monde que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça, n'est pas membre du Front National. C'est donc raté pour ce coup-là. Alors, Emmanuel Ratier, on parle de ce gouvernement. Bon, on a évoqué rapidement la personnalité de Balladur, son portrait psychomorphologique ou morphopsychologique, ses origines levantines. Mais ça fait pas le portrait d'un homme. Politiquement, il est quoi? D'où sort-il? Comment a-t-il émergé finalement?
Politiquement, c'est un grand bourgeois. Mais c'est pas quelqu'un. Enfin, la famille a eu beaucoup d'argent parce que ils étaient très connus en Turquie. Son père était, si mes souvenirs sont exacts, directeur de la Banque Ottomane. Il y a eu un grand-père qui a dirigé la régie des tabacs, je vous dis ça de tête, mais c'était des gens qui comptaient, il y a eu des biographies qui sont parues sur eux dans le pays, en Turquie, etc. Et ils ont été, c'était cette bourgeoisie commerçante très riche, richissime, qui a été obligée de quitter le pays au moment du kémalisme, avec Mustafa Kemal. Bon. Donc ce sont des gens qui avaient beaucoup perdu. Et donc ils se sont, je dirais, en France, c'est quelqu'un qui avait donc toute une culture derrière lui, des relations, etc., données par ses parents, et donc il s'est engagé dans le milieu industriel. Il faut savoir que
je coupe un instant. Ce qui est amusant, c'est qu'il faut rappeler qu'il a fait ses études au lycée de Marseille.
Oui.
Dans un lycée de Marseille.
Très brillant. Il était après chez les frères Maristes.
Il était au 104 rue Vaugirard, qui est l'endroit où Mitterrand a été formé.
Oui, oui.
Et où il est devenu cagoulard.
Oui.
Enfin bon, je crois que Balladur n'était pas cagoulard, il n'a pas d'âge.
Ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Ouais. Et puis je pense pas. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas du tout un homme politique. En fait, c'était un grand bourgeois. Il y a quelqu'un qui avait défini, à mon avis, ça assez exactement, qui vient de périr, semble-t-il, assez tragiquement, qui était le gendre de Jacques Chirac, qui s'appelle Philippe Habert, qui était dirigeait les études politiques du Figaro. Qui avait dit que ça serait une grande erreur de choisir Balladur comme Premier ministre, parce que c'était le représentant de la République bourgeoise, le représentant du grand patronat, le représentant de la haute finance. Il a des liens très étroits avec de nombreux banquiers, etc. Alors que la France, en réalité, aspire pas du tout à ça. Les gens ont voté contre les socialistes, ils aspirent à un gouvernement, je pense, de droite, ils aspirent à un changement, ils aspirent pas du tout à être gouvernés par la haute bourgeoisie ou ce genre de choses.
Alors, et le gouvernement. Il y avait d'ailleurs, c'est le gendre, je crois, de Chirac qui est mort cette semaine à Brère. C'est ça son nom, ou qu'est-ce que
Haber.
Philippe Haber. Oui, je confonds avec Jean-Yves Abraham. Philippe Haber qui disait que qu'avait fait une étude, suivie d'une déclaration à propos de Balladur, en disant que Balladur n'avait absolument pas la sympathie
des Français
et notamment des catégories populaires.
Voilà.
Il faut dire que bon, c'est pas un homme extrêmement sympathique. Physiquement, on n'est pas très attiré, on peut pas dire que il a pas. Léotard est un homme très sympathique. Mais
Oui, enfin pour le moment, à mon avis, Balladur joue quand même très finement, et je pense qu'il y a.
Non, c'est autre chose. Ouais. Mais il faut. Ce que je veux dire, c'est que souvent les gens, le public a tendance à avoir, pas seulement, enfin tout le monde, on a tendance à avoir un élan vers quelqu'un ou un retrait à l'endroit d'un individu en fonction de son aspect physique.
Oui.
Il faut dire que Balladur fait vraiment très coincé. Quoi.
Non,
on n'a pas envie de lui taper sur le ventre.
Ah ben c'est quelqu'un de toute manière qui, au cours de sa campagne électorale, en fait, de toute façon, il n'a jamais fait de campagne électorale, il réussit à se faire élire dans les endroits où il n'y a aucun risque. C'est quelqu'un qui est incapable, à la différence de Jacques Chirac, de rentrer dans un magasin pour serrer la main des commerçants, leur acheter un petit pot de rillettes comme Giscard, leur dire comment vont les enfants, avoir des petites fiches qui sont préparées par leur chef de cabinet qui leur indique les noms des gens dans la rue, ils ont l'impression d'être très au courant et toute la rue est retournée. Bon, Balladur, c'est pas du tout ça, il a peur de déranger.
C'est pas le genre de la maison.
Mais il n'empêche que pour le moment, il joue finement, et je crois que les gens qui l'ont propulsé en avant, et je pense notamment à Jacques Chirac en premier, ont quelques inquiétudes à se faire.
Alors, la question qu'on pose à propos de tout gouvernement au début, quand il est présenté, combien de francs-maçons ? La première question, est-ce que Balladur est franc-maçon ? Parce qu'il va souvent dans les, enfin, il est allé plusieurs fois dans des tenues, il est allé dans des loges. Vous publiez d'ailleurs dans votre encyclopédie politique, si je me souviens bien, un carton d'invitation.
Oui, une invitation je crois que ça s'appelle le Cercle de Paris, qui est une association qui regroupe des francs-maçons parisiens, c'est dirigé par un chiraquien. Non, je pense pas que Balladur soit franc-maçon, de toute façon, il y en a pas tellement. À mon avis, dans le gouvernement, il y en a un, bon, parce qu'il l'a dit, et puis, c'est bien connu, c'est André Rossineau. En 86, Chirac, quand il l'a nommé, l'avait nommé ministre des Relations avec le Parlement. Mm-hmm. Il lui avait dit on t'a choisi parce que t'es radical, t'es gros, t'aimes bien manger et tu es franc-maçon. Donc on te prend pour les relations avec le Parlement, parce qu'à l'époque, il y en avait pas mal. Semble-t-il, il y en a peut-être d'autres. Pour le moment, il n'y a pas eu encore beaucoup de... Je pense que c'est un gouvernement beaucoup moins... franc-maçonnique que le précédent. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres soutiens. Bon, on voit bien que c'est un gouvernement qui est composé largement d'énarques, d'héritiers. Antoine Ruffnac, qui lui non plus peut pas être soupçonné d'anti-gaullisme, enfin anti-chiraquisme primaire, bon, a été un peu scandalisé parce qu'il a dit il y a 8 ministres dans le gouvernement qui sont élus à moins de 10 km de la Tour Eiffel. Bon. Alors, vous avez les gens du Nord, par exemple, du Nord-Pas-de-Calais.
Très parisien.
Bon, les gens du Nord-Pas-de-Calais qui, la droite a reconquis des terres socialistes ce qui paraissait impossible il y a quelques années. Il y a de fortes chances que Lille, en 95, revienne à la droite. Quand je dis à droite, c'est à droite, bon, mettons, parlementaire.
Oui, pas d'un
gouvernement. Les gens du Nord qui ont pratiquement, enfin, ils sont en fait, s'ils s'entendaient avec le Front National, ils sont majoritaires au Conseil Régional, ils ont Nord-Pas-de-Calais, ils ont récupéré le Conseil Général du Nord, ils ont une majorité de députés, eh bien, ces gens qui ont fait, semble-t-il, bon, c'est une région qui a basculé, n'ont aucun représentant au gouvernement. C'est vraiment un gouvernement très parisien.
Alors, très parisien, pas très maçonnique.
Non.
Vous n'en relevez qu'un, c'est Rossineau.
Il y en a peut-être.
Sûr.
Lui, c'est sûr, parce qu'il y a même eu une demande d'exclusion du Grand Orient de France.
C'est pour ça qu'il est franc-mec, parce qu'ils ont essayé de le virer.
Oui, tout simplement parce que, il n'a pas que des points négatifs, mais il avait participé, il avait osé participer, malgré le diktat du Grand Maître, à une manifestation en faveur de l'école libre.
Ah oui.
Bon, et donc, il y a des loges qui ont demandé son exclusion.
Oui, c'est normal. Voilà. C'est un problème de tolérance. Ça, c'est...
Et comme, bon, finalement, le grand maître n'avait pas trop envie de perdre un ministre, il a réussi à bloquer la plainte, et puis ça s'est peu à peu tassé. Mmh. Voilà. Non, semble-t-il, il y en a d'autres, mais enfin, j'en ai repéré, semble-t-il, deux, mais j'ai pas envie de donner les noms, parce que j'en suis pas sûr, et donc j'ai pas envie de faire de la diffamation.
Mais c'est pas forcément diffamatoire.
Non, mais enfin, il y a
de forts soupçons.
Il y a de forts soupçons, oui. Par exemple, non, mais il y a quelqu'un qui a déjà été cité, c'est pour ça qu'on peut le dire. Il y en a un qui a été cité, mais moi je...
C'est Madelin.
Non, non.
Parce que j'ai lu que Madelin avait été cité comme franc-maçon, j'ai trouvé ça bizarre.
Oui, il y a des gens... Bon, non, je pense à Carignan, bon, dont le profil correspond assez bien, et semble-t-il, ça aurait pu se faire de manière assez tardive chez lui, c'est-à-dire dans les années 84-85, parce que Carignan, qui avait quand même à un moment même quitté le RPR, parce qu'il était contre les alliances avec le Front National.
Il était contre ?
Oui, il était contre. Bon, et ben, c'était quand même quelqu'un, on est toujours stupéfié, enfin, très étonné de constater, c'était quelqu'un qui s'était déplacé à Dreux. Ça avait été un des deux députés RPR qui s'était déplacé à Dreux pour aller soutenir en 1983 la liste commune Front National RPR dans laquelle figurait Jean-Pierre Stirbois. Mmh. Et puis ensuite, il a complètement changé d'opinion, d'avis, il est devenu très haineux. Bon, donc, c'est un peu un profil qui correspond. Bon, je ne dis pas du tout qu'il est un. Ce qui est exact, c'est qu'il a été cité à plusieurs reprises dans diverses publications.
Bon, voilà. Il mériterait de l'être. Non, moi, je trouve physiquement, tout, il mériterait de l'être. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie, Carignan. C'est une belle carrière, hein. Il partait de rien.
C'est une carrière d'apparatchik total.
Ouais.
Alors, comme d'autres au gouvernement, ce sont des gens qui ont toujours été permanents politiques. Mmh. Et puis il y a les héritiers aussi.
Alors c'est ça. Donc première chose, on a vu très parisien. Deuxième chose, très très apparatchik. C'est un gouvernement de fonctionnaires de parti.
Oui. Hein.
Que ce soit Balladur, que ce soit bon, même Léotard.
Mais non, mais il y a des représentants de parti, il y a Meignery, il y a Bosson, voilà. Il y a des gens, ce sont vraiment des présidents, des professionnels de la politique depuis toujours. Ouais. Et alors, ce qui est formidable, si j'ai repéré, bon, il y a quand même, au minimum, bon, j'assure pas que je les ai tous repérés, mais il y a quand même 8 ministres sur 29 qui, à mon avis, doivent l'essentiel de leur carrière à leurs parents ou à leur mariage. Bon. Alors, vous prenez, bon, par exemple, il y a Pierre Meignery. Son père était. Alors j'ai un peu. Le problème, c'est que je me souviens pas toujours de tout par cœur. Mais Pierre Meignery, bon, son père était député, député-maire de Vitré. Oui, c'est Alexandre Meignery, ancien député MRP d'Ille-et-Vilaine. Vous avez Edmond Alfandéry. Alors lui, c'est un cas un peu particulier.
Ça, c'est une dynastie.
Oui, mais alors il se trouve qu'il a épousé une dame qui s'appelle Madame Laurence Rivin, et son beau-père, c'était le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Bon. Alors, vous prenez Bernard Bosson, bon, son père, il était maire et député d'Annecy. Vous avez Michel Alliot-Marie, son papa, c'était le maire de Biarritz, qui s'est fait sortir, qui était un élu. Et puis vous avez également Daniel Eiffel. Alors, Daniel Eiffel, bon, bah, il est fils de sénateur centriste, et tout dans la famille, il y avait des députés, etc. Bon. Donc c'est quand même un gouvernement où il y a beaucoup de c'est pour ça que j'appelle ça, c'est vraiment un gouvernement très bourgeois, parce qu'il y a les, c'est vraiment le retour de ce qu'on pourrait appeler les dynasties bourgeoises qui ont été dénoncées par Coston, par des gens comme ça, parce que c'est vraiment ça en ce moment. C'est le l'argent triomphant, la droite triomphante. On peut supposer qu'ils en prendront moins que les socialistes, puisque ils ont déjà les poches pleines.
Oui.
Non, mais donc ils risquent d'en prendre moins. Ils seront plus honnêtes.
Moins de place dans les poches et dans les sacs. À propos de Franck Mac, vous allez dire que je fais une fixation, mais un auditeur nous signale que Lucette Michaud Chevry, qui est ministre de l'Action humanitaire, est Franck Mac. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je peux dire, c'est qu'elle est antillaise.
Elle est antillaise.
Que pratiquement, antillais franc-maçon, c'est à peu de choses près synonyme, sauf exception, quoi, dans en politique.
Je n'en sais strictement rien.
Vous ne savez pas.
Le problème, c'est que.
Vous êtes un homme prudent.
Non, non, c'est pas ça, c'est parce que j'aime pas après.
C'est une
des erreurs, si vous voulez. Bon, par exemple, on peut en parler, bon, parce qu'on en parle comme ça. Bon, il y a au moins 10 personnes, depuis que Michel Noir a des ennuis, qui m'ont dit qu'en réalité, il était d'origine juive, que son père s'appelait Schwartz et qu'il avait changé de nom. C'est absolument faux.
Oui.
Bon, c'est quelqu'un, son père, il s'appelait Noir. Bon,
son grand-père s'appelait Noir. Son grand-père s'appelait
Noir. Il était. Je crois qu'il était membre de la résistance et donc il était déporté. Oui. Mais c'est pas la peine de m'en rajouter et d'aller raconter comme Roger Hanin, qui est actionnaire des fourrières de la ville de Paris. C'est faux. Bon.
Oui, ça fait partie des grandes légendes qui traînent tout le temps. Voilà. Et qui sont colportées. Ma voiture est régulièrement emportée par la fourrière. À chaque fois que je vais au commissariat, enfin très souvent, il y a là un représentant des forces de l'ordre qui, voyant mon nom, me dit « Ah, vous êtes le chef des caisses, ça doit vous faire plaisir de donner de l'argent à Roger Hanna. »
Voilà. Bon. Et les gens qui l'écrivent ont été condamnés en diffamation. Bon. Alors c'est pour ça que moi, tant que j'en ai pas la preuve, je ne vais pas dire que quelqu'un est franc-maçon.
Alors, on n'a pas de preuves, on ne le dira pas. En revanche, l'appartenance à la franc-maçonnerie, c'est pratiquement une survivance de la Troisième République. Oui. Ce qui est intéressant maintenant, c'est l'appartenance à d'autres groupements. Je pense à la Trilatérale, à Bilderberg, à des choses comme ça.
Alors, oui. Alors ce qu'il y a,
quels sont les liens du gouvernement actuel avec ces groupes?
Il y a un certain nombre de gens qui sont en observation auprès du Bilderberg Group. Ça, j'ai pas apporté de documentation dessus. Je crois que Jacques Toubon, parce que je prépare un bouquin sur ces grandes organisations, mais je crois que Jacques Toubon a dû être invité. Et puis Balladur, qui est un homme en rapport avec la haute finance internationale, a participé évidemment à des réunions aux États-Unis du Council of Foreign Relations ou des choses comme ça. La plupart des gens, Jean Madelin, etc., quand ils étaient au pouvoir, sont allés au séminaire de Davos qui se tient en janvier. On retrouve l'élite financière mondiale. Donc, il y a une chose qui est assez intéressante, parce que ce sont plutôt des groupements français, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est un peu étonnant, c'est Simone Veil. Bon. Elle a fondé une association avec son mari qui s'appelle le Cercle Vauban. Simplement parce qu'ils habitent Place Vauban, et comme ils réunissent les gens pour un petit déjeuner, ils ont appelé ça du nom de leur appartement. Donc ça a été une espèce de laboratoire de la cohabitation droite-gauche, mais des gens quand même en général plutôt à gauche. Enfin, du centre-droit jusqu'à la gauche, c'est-à-dire qu'il y avait des socialistes, il y avait des centristes, etc. Et ce qui est formidable, c'est que Simone Veil, moi personnellement, j'aurais jamais cru qu'elle rentrera à nouveau dans le gouvernement. Bon. Mais ils sont une petite trentaine, membres du Cercle Vauban. Vous en retrouvez 8 au gouvernement. Alors vous aviez, par exemple, il y avait Alain Carignan, qui prenait ses petits déjeuners avec Dominique Strauss-Kahn, vous aviez des gens comme ça, et puis il y avait pas mal de gens dans le dernier gouvernement socialiste qui étaient au Cercle Vauban, et maintenant dans le nouveau gouvernement, c'est quand même formidable, 8, il y a 29 ministres, ça fait beaucoup.
Ouais.
Bon, donc,
Il faut s'intéresser à ce Cercle Vauban.
Oui, qui a publié quelques tailles, que les auditeurs ne s'inquiètent pas, ils ne feront pas de la révolution, ça on le sait, mais c'est le... La décadence à grande vitesse.
Si la grosse Simone vous colle un coup de sa kermesse, vous pouvez avoir une bosse. Pierre Berger faisait partie du Cercle Vauban.
Il mériterait d'être nommé
membre de.
Non, c'est pas du tout le genre. Mais ce qu'il y a, pour reprendre sur Simone Veil, c'est. Je crois que Simone Veil a été essentiellement nommée au gouvernement pour coincer Giscard. Il faut voir que c'est un gouvernement. Le gouvernement, d'après ce que je crois savoir, ce sont des supputations, si vous voulez, j'ai rencontré un certain nombre de gens au RPR, à l'UDF. Il semble que, à l'origine, le gouvernement devait être beaucoup plus RPR. On s'en est rendu compte le dimanche soir aux élections, où quand on a vu Bayrou qui parlait, il était pratiquement certain que le président de l'Assemblée nationale allait être à l'UDF, de l'UDF. Et semble-t-il, en réalité, centriste. Puisque, en échange du fait que le CDS rejoignait l'UDF et ne faisait plus de groupe de l'Union du Centre, que le Premier ministre était un ministre RPR, on donnait la présidence de l'Assemblée nationale à un UDF. Bon. Et semble-t-il, ça devait être Baudis. Il y avait de très fortes chances, et les déclarations sont assez intéressantes. Bon. Et puis, il semble que patatras, lundi soir, juste avant la formation du gouvernement, Balladur avait déjà préparé, ça fait des mois en réalité qu'il prépare son gouvernement, il y a Philippe Séguin qui a rendu visite à Balladur et qui lui a dit « J'ai décidé d'être président de l'Assemblée nationale ». Bon, il faut savoir que Séguin, à mon avis, est un des rares hommes, c'est un très fin politique, c'est un type très intelligent, même s'il a toujours été un solitaire, qui a réussi à s'entendre avec Pasqua, ce que personne n'aurait jamais cru, et il a déjà failli, il avait raté à très peu la présidence du groupe RPR à l'Assemblée nationale dans la précédente Assemblée. Il l'avait raté à une voix face à Jacques Toubon, je crois que c'est Jacques Toubon, je vous dis cette tête. Bon. Et donc, il semblerait que dans les derniers moments, Balladur est obligé de changer la forme de son gouvernement, parce que Seguin tenait très fermement à la présidence de l'Assemblée nationale, et donc on s'est retrouvé avec plus d'UDF que prévu. Mais Balladur a fait une chose assez... Ce qu'il faut voir, c'est que il a nommé beaucoup de centristes, beaucoup trop de centristes par rapport à leur poids électoral. Pourquoi ? Pour se les mettre à sa botte, bon, et empêcher l'émergence de Giscard pour les prochaines présidentielles. Parce que, en fait, c'est ça qui joue en ce moment. Ouais.
Alors, on a dit aussi que il s'était amusé à refiler, on passera à l'expression, mais bien française, tous les bâtons merdeux à l'UDF et à le ministre Simone Veil qui voulait la justice. Et qui a refusé finalement, on prétend qu'elle n'a pas pris la justice parce qu'elle avait l'impression que le nouveau pouvoir allait faire des pressions terribles sur le ministère et qu'elle ne serait pas libre. Et donc elle a accepté finalement le ministère des Affaires sociales et de la Ville.
Ah, mais non, mais elle a la Santé, les Affaires sociales et la Ville. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est un ministre. Elle contrôle ce qui. Il y avait 6 ministères et secrétariats d'État, maintenant il n'y en a plus qu'un.
Bon, elle a un ministre délégué, mais. Ça veut dire qu'elle couvre la sécurité sociale, ça veut dire qu'elle couvre les banlieues, ça veut dire qu'elle couvre tous les.
Ah bah, les affaires sociales, c'est notamment un problème qui semble-t-il être rapidement abordé, notamment dans les commissariats du 18e.
Oui, par exemple.
C'est l'immigration.
Elle va avoir des problèmes.
Certaines personnes disent qu'elle a été prise comme caution. Moi, je ne crois pas du tout. Elle n'avait absolument pas conscience de la tâche. Mais ce qui est certain, bon, c'est qu'il y a eu. Si vous voulez, il y a une petite chose. Bon, il se trouve que. Bon, je ne vais pas vous dire qu'en général, ils sont bien informés. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a une lettre confidentielle qui, en général, n'est pas trop, trop mal informée. C'est présent qu'il l'a noté. J'ai trouvé ça amusant. C'est la lettre de l'expansion.
Ouais, bon,
ils ont donné le futur gouvernement et il y avait. Aucune des personnes qu'ils avaient nommées, qui ont été nommées au poste. Il semblerait très réellement qu'il y ait eu un changement
au dernier moment.
Ouais. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec François Léotard à la Défense.
Ce qui est un gag extraordinaire.
Ce qui est véritable.
Quand on connaît son passé militaire.
Il n'a jamais fait de service militaire. Il a fait de sa coopération au Liban.
Et attention, au Liban, à l'époque où c'était l'endroit où on envoyait les chevilles d'Archevêque. Ouais. C'est-à-dire, c'était bien avant la guerre du Liban. C'était un lieu de villégiature.
Oui. Bon, et en plus. Il a créé un syndicat dans les coopérants, et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on l'a expédié en France assez vite, parce qu'il s'était rendu odieux à tout le monde là-bas. Il était à la CFDT, bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais porté une arme.
Mais pourtant, il a toujours voulu être ministre de la Défense, puisqu'en 86, il avait exigé le ministère de la Défense, et Mitterrand avait posé son veto. Oui. Ce qui est la raison pour laquelle on avait donné le même ministère à Giraud, non ? Je sais plus, enfin peu importe. Vous voyez comme ça passe, tous ces immortels ont fini par les oublier. En tout cas, là, donc 7 ans plus tard, il a réitéré sa revendication et il a fini par l'avoir, le ministère. Alors il paraît, d'après le canard enchaîné d'aujourd'hui, que les Gégènes ne sont pas absolument ravis, et parce que Léotard est arrivé avec toute sa bande, qui sont tous les anciens froufroutants du ministère de la Culture. Enfin, des affaires culturelles, qui était le ministère qu'il avait eu en 86 en dédommagement du refus opposé par Mitterrand à sa présence à la tête du ministère de la Défense. Et donc, il est arrivé avec toute son équipe, et il paraît que les généraux ont fait distribuer des photocopies de la page du petit Larousse qui montre les grades dans l'armée. À tous ces gens-là, on dit, voilà, quand vous croisez un général, et voilà ce que c'est un général à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Ce qui, déjà, l'ambiance commence bien, mais effectivement, on imagine que pour les gens qui sont aujourd'hui des officiers supérieurs, de voir arriver comme ministre un gars qui s'est illustré dans son service militaire en créant un syndicat de soldats.
Non, mais c'est pas son service militaire, c'est la coopération.
Sa coopération, voilà. C'est pas très très flatteur. Je voudrais donner la parole aux éditeurs une seconde, et notamment à une auditrice qui nous dit « Dénigrer M. Balladur est une faute, car le peuple l'aime. Il est autrement populaire que Serge de Bekesh. » Ça, c'est certain, ça ne fait pas long d'un doute. « Que celui-ci aille un peu dans les quartiers populaires pour observer cela. » Madame, j'y vis dans les quartiers populaires, et je vais vous faire un aveu, vous avez tout à fait raison, je ne suis pas populaire du tout.
Mais à mon avis,
il arrive de traverser mon quartier sans recevoir aucun applaudissement.
Non, mais à mon avis, Balladur ne connaît absolument pas les quartiers populaires de Paris. Parce qu'on ne se mélange pas avec le peuple.
Il paraît que Julien Drey vient de dire sur Radio Shalom, avec Pasqua, il n'y a rien à craindre, c'est Fernandel.
Oui, ils en ont vaguement le physique, je crois qu'il... Bon,
c'est amusant de voir que c'est Drey qui dit ça sur Radio Shalom, quand on sait les grâces que Pasqua multiplie à l'égard de la communauté, voilà comment il est remercié. Alors, je voudrais quand même souligner une chose. À propos de, je parle beaucoup de Globe ce soir, mais c'est intéressant de voir parce que on peut, oui.
Oui, il faut savoir que Globe actuellement remplit une mission très précise parce que c'est un journal. Moi, j'ai écrit à Globe avant, comme je suis journaliste, j'ai écrit à Globe avant que ça paraisse parce qu'ils avaient fait passer des placards de pub dans la presse en disant écrivez-nous si vous voulez recevoir le premier numéro. Bon, donc j'ai écrit une lettre à mon adresse personnelle, une lettre à une adresse en province et une lettre au nom de mon journal. Parce que comme je découpe souvent les journaux, c'est bien d'en avoir plusieurs. Bon, et ben, j'en suis, je crois qu'ils en sont à leur 5e parution, j'ai déjà reçu 15 numéros. Gratuitement, ça m'a rien coûté. Bon. Alors, on se demande d'où vient l'argent. Bon, il y a une circulaire qui a été publiée par l'Union internationale, il semblerait qu'ils aient déjà perdu 8 millions de francs lourds. Bon. Alors, l'argent, il vient de quelque part, il vient de M. Pierre Berger, qui a réalisé une très belle opération en vendant ses parts d'Yves Saint-Laurent à Sanofi.
C'est-à-dire une société d'État.
Oui.
En rendant à l'État, en réalité. Bon.
Et ils sont en prise directe avec l'Élysée. Ouais. C'est eux qui ont eu la réforme de l'article 16. Ils sont très bien tuyautés la semaine dernière sur la formation du gouvernement, dans lequel ils montraient comment Pasqua avait téléphoné à l'Élysée en disant qu'il ferait des efforts, qu'il se voyait très bien, comment Giscard avait dit « je ferais du bien des ISP ». Ils sont particulièrement bien informés. Donc je crois que c'est un canard, bon, je vous dis pas à lire, bon. Mais par exemple, durant la cohabitation, quand le matin paraissait, il y avait une page qui était la page de Kathleen Neville. Mm-hmm. Dans le matin, c'était écrit en direct de l'Élysée. On savait ce qui se passait, c'était vrai. Bon, il y avait un peu de désinformation, mais c'était intéressant. Bon, ben Globe, maintenant, c'est le dernier journal tontineux, tontonesque. Bon, donc, ils sont assez bien tuyautés, je pense.
Alors, justement, on peut lire, sous la signature de Pierre Berger, dans son éditorial. Il faudrait le lire entièrement, parce qu'on a l'impression que c'est Mitterrand qui écrit, en ayant laissé son talent à la porte, mais parce que Mitterrand écrit quand même mieux que ça. Mais voilà ce que dit Mitterrand par la voix de Berger. Bien joué, monsieur Labaladur. On vous soupçonnait de vouloir vous attaquer aux acquis sociaux et vous vous êtes attaqué aux acquis des ministres. Espérons qu'il ne s'agit pas là d'une mesure démagogique. Oui, il faut rappeler que cette Balladur a fait une déclaration en arrivant en disant le glam c'est fini, les voitures de fonction à gogo c'est terminé, etc. Ou alors quoi, le lendemain d'ailleurs, Léotard prenait un avion du glam pour aller signer le budget de Fréjus. Mais enfin, bon.
Et puis les voitures des ministres avaient été quand même changées il y a 6 mois.
Il y a 6 mois.
Donc à mon avis, elles sont pas totalement encore obsolètes.
Alors pour en revenir à Berger, il dit ensuite parlons un peu de ce nouveau gouvernement. Madame Vell rallie comme à son habitude tous les suffrages.
Oui, on l'a vu en 89 au moment des européennes.
Elle avait rallié tous les suffrages, elle a fait combien?
Elle a fait, je pense, 7,5%. Bon, enfin, ça a été même pire que ce qu'ont fait les écologistes cette fois-ci. Quoi.
Alors, Madame Veil rallie comme ça en habitude tous les suffrages. Et quant à nous, nous sommes prêts à lui faire confiance. N'oublions pas que nous lui devons la libéralisation de l'avortement. Entre nous, je ne vois pas en quoi Berger peut être concerné par l'histoire de l'avortement. Je crois qu'il n'y a absolument aucun risque en ce qui le concerne. Qui n'est pas une mince affaire, ajoute-t-il. Nous attendons d'elle aujourd'hui une action courageuse contre le sida et notamment qu'elle oblige à ce que soient distribués des préservatifs dans les lycées et dans les prisons. Alors ça, c'est une des obsessions de M. Berger, pour des raisons parfaitement lumineuses. Il le dit lui-même dans son autobiographie, donc c'est pas diffamé que de le souligner. Et je signale d'ailleurs que la question est également posée à Toubon. On va dire que je fais de l'anti-toubonisme primaire et viscéral, mais on lui demande, vous, des distributeurs de préservatifs dans les lycées, ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas, voilà, c'est tout, ça les choque pas du tout. Pour l'instant, c'est seulement les lycées. Pour les maternelles, on attendra la deuxième législature. Alors, il continue, Berger, il attend quoi de Madame Veil, ministre de la Santé, des Affaires Sociales et de la Ville, qui représente, comme le disait Emmanuel Ratti à l'instant, 6 ministères de l'ancien gouvernement? On attend quoi? Il attend quoi, Pierre Berger, qu'elle distribue des capotes anglaises dans les lycées? Voilà ce qu'on attend du premier ministre d'État, par ordre de préséance, du nouveau gouvernement. Alors, autre ministre d'État, François Léotard, se trouve à la tête de nos armées. Nous pensons que ce n'est qu'une étape. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire, Berger.
Il rêve peut-être à la dictature.
Un ministre de la Culture, M. Jacques Toubon, qui aime la musique et la peinture contemporaine, voilà qui n'est pas fait pour nous déplaire. Mais revenons un peu sur les élections, bon, etc. Après, ça ne devient pas très intéressant, sauf la fin où il dit PS. C'est Berger qui parle toujours. Hein.
PS. Il parle du PS.
Post scriptum. J'apprends à l'instant que M. Michel Rocard vient de mettre la main sur le Parti Socialiste. L'irrésistible ascension de M. Rocard ne me semble pas assez significative pour que je modifie cet éditorial. Bingo. Vous voyez comme on est aimable entre socialistes. Ils s'aiment beaucoup. Hein. Alors donc c'est un gouvernement qui a l'appui de la gauche mitterrandienne. Ça c'est très, très clair.
Globalement positif.
Globalement positif, oui. Un auditeur nous dit, Balladur est un nom francisé. Ça va vous plaire, Emmanuel Ratier. Il dit que ça vient de Balder. C'est le nom d'un dieu fils d'Odin dans la mythologie nordique.
C'était le c'est l'équivalent de Prométhée. C'est le dieu de la jeunesse et du renouveau.
C'était le surnom qu'on donnait à Jean Babi.
Il suffit de regarder Balladur pour voir que c'est un Aryen blond qui vient de Scandinavie.
Il porte forcément...
Mais vous voyez, je vais vous lire, il y a juste un truc. Bon, ils avaient dû préparer leur coup à l'avance parce que c'est un mensuel. Il y a la revue française de généalogie qui vient de sortir. Et... il donne l'étymologie française de Balladur. Vous voyez, on peut dire n'importe quoi. Et alors, ils disent que Balladur est le surnom d'un baladin ou d'un homme qui aimait la danse. Les noms de Balladur, Balladier, Balair, Balladier sont dérivés de l'ancien français baladoir, qualificatif d'une danse du Moyen-Âge qui était pratiquée chaque 1er janvier et chaque 1er mai. Considérée comme licencieuse, elle fut interdite par le pape Zacharie en 744. Donc, on peut dire que Balladur est au moins français bien avant 744. Or, il suffit de savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. Bon, mais ça, c'est la revue française de la généalogie. Donc, monsieur me dit c'est Balder, bon, il y en a un autre qui vous dira que c'est Balladurien. Pour le moment, on ne sait pas.
Je voudrais faire une petite parenthèse à propos de Sarkozy. Vous avez quelque chose à dire sur monsieur Sarkozy, maire de Neuilly et ministre de la chargé de la communication?
C'est ça, non, il est porte-parole du gouvernement.
Porte-parole du gouvernement.
Ministre du budget et porte-parole du gouvernement.
Je dis chargé de la communication parce que c'est une déclaration qu'il a faite qui m'inspire ça. Il a dit, nous sommes dans une société de communication, il faut des signaux. Donc, peut-être que le ministre de la francophonie pourrait lui donner des cours du soir.
Oui.
Monsieur Toubon.
Ou peut-être le ministre du rail.
Donc, il faut des signaux. Pour les signaux, on passera plus tard. C'est remis à une date ultérieure.
Mais c'est Sarkozy de Nagy Boxa. Donc ces gens sont des gens originaires de Hongrie.
Oui, mais enfin moi aussi je suis originaire de Hongrie, mais je sais que signal au pluriel ça fait signaux.
Et cheval fait cheval.
Non, mais vous me demandiez s'il y avait des choses. Bon, il est exact que j'en ai parlé dans mon bouquin. C'est un permanent politique depuis son plus jeune âge.
Il a été élevé par son grand-père, enfin a-t-il précisé, il y a un long papier au Nouvel Observateur. Parce que son père était un propriétaire terrien hongrois qui a émigré en France en 1949. En fait, il semblerait qu'il était largement élevé par son grand-père qui était d'origine ashkénaze. Voilà.
Okay. En tout cas,
c'est ce qu'il avait expliqué au Nouvel Observateur dans un portrait il y a à peu près un mois.
Alors, on a parlé de Lothar, on a parlé de Simone Veil, on a parlé de Sarkozy, on a parlé de Jacques Toubon, on a parlé de Balladur. Qui encore on a parlé de Lucette Michaud Chevry, qui encore vous paraît mériter des mentions spéciales ou pas spéciales d'ailleurs?
Il y a des gens qui sont peu connus mais tout à fait particuliers. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont beaucoup de qualités, hein. Je critique pas, et je pense que le gouvernement ça va peut-être vous choquer, mais je pense que c'est un gouvernement qui est pas mal, il peut parfaitement réussir. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont assez choquantes, mais comme par exemple Simone Veil qui est le Premier ministre.
Il peut parfaitement réussir. Vous savez, statistiquement, si vous mettez un singe devant une machine à écrire, au bout de je sais pas combien de milliards d'années, il va écrire
le
marchand de valises. Donc, ce gouvernement peut effectivement statistiquement réussir.
Parce que ce qu'il faut, c'est de toute façon, c'est rétablir la confiance. Il l'a dit très bien, et pour le moment, à mon avis, il se débrouille parfaitement, on va dire. Je crois qu'il est beaucoup plus sous ses allures apolitiques. C'est un peu comme Raymond Barre au début ou des gens comme ça. Je pense qu'il a d'autres ambitions que d'être Premier ministre. J'en répète, j'en ai parlé déjà au début, et je pense que Jacques Chirac peut vraiment s'inquiéter parce qu'il pourrait parfaitement ne pas se satisfaire seulement d'être Premier ministre.
Alors c'est une constante, ça. On a toujours vu les gens. Rappelez-vous Barre qui est arrivé plein de compunction,
petit homme de Giscard,
ruisselant de modestie comme le petit homme de Giscard, et puis 2 ans plus tard il trépignait devant la porte de l'Elysée. Donc on connaît pas de Premier ministre qui n'ait pas eu à un moment ou à un autre, même Mesmer, même Chaban-Delmas, bien sûr, qui n'ait pas été saisi par le démon de,
et on le voit à gauche,
de la présidentielle.
On le voit à gauche pareillement avec Fabius, Rocard, etc.
Donc il faut s'attendre effectivement à ça.
Bon. Non, il y a deux personnalités qui sont assez étonnantes dans le gouvernement. Il y a Roger Romani, qui est ministre des Relations avec le Sénat et chargé des rapatriés. Alors, c'est assez surprenant, c'est un sénateur RPR. Alors, il est corse, d'ailleurs, je crois qu'il parle le corse, il est originaire de Dizani, mais en fait, il est né à Tunis parce que son père était petit fonctionnaire des Eaux et Forêts. Et alors, c'est un homme, moi j'ai regardé les biographies, hein, c'est un homme un peu étonnant parce que, bon, pour commencer, il est chargé des relations avec le Sénat. Or, on a un gouvernement, il n'y a que 29 ministres, et il n'y a jamais eu de ministre ou de secrétaire d'État chargé des relations avec le Sénat. Il y avait un ministre chargé, ou un secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et là, c'est éclaté entre Assemblée nationale et Sénat. Premier. Bon. Et puis ensuite, on ne voit pas le rapport entre les relations avec le Sénat et les rapatriés. Et alors, M. Romani, à plus ample information, est un autodidacte total parce qu'il n'a aucun diplôme. On prend sa biographie au bouillon, plus d'autres choses que j'ai consultées, il n'a strictement aucun diplôme. Et il entre comme assistant de direction à l'ORTF en 1964, si mes souvenirs sont bons. Et il est né en 34. Donc il n'a pas de diplôme et son premier job, c'est à 30 ans. Mais tous les autres sont ultra diplômés, ENA, agrégation, normale sup, etc., l'école de la France et d'outre-mer. Bon. Et puis il y a un deuxième personnage qui est que personne connaît en France, qui est Michel Roussin.
Oui.
Alors Michel Roussin, c'était le ancien gendarme, directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris, ancien membre du SDEC, c'était le numéro 2 ou le numéro 3 à côté d'Alexandre de Maranche. Et on peut supposer qu'il a satisfait Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac lui a donné la circonscription la plus sûre de Paris, puisque il lui a donné la circonscription de...
Le 13e.
Non, le 6-7e arrondissement. J'ai un trou. Édouard-Frédéric Dupont. Voilà. Donc ça lui a permis de passer, je crois, au premier tour avec un score roumain. Oui. Il a fait plus de 60%. Bon. Or, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique précédemment, qui n'a pratiquement pas fait de campagne, qui est totalement inconnu. Et on le retrouve au dom-tom. Je vérifie.
Oui,
mise à coopération.
Mise à coopération.
Alors, c'est, bon,
il paraît que c'est un personnage assez c'est très solide et très bien, comme on dit.
Oui, oui. Bon sens, c'est un ancien militaire. Voilà. Donc c'est des gens. Il y a quand même quelques personnalités, enfin un peu.
Il faut savoir qu'il occupe un poste clé là, qui en fait est un poste qui est sous contrôle direct de Chirac, évidemment, puisque Chirac a toujours tenu à garder, par l'intermédiaire de Focard, de Vibo, etc., un contact très très étroit avec l'Afrique noire.
Voilà.
Et c'est Roussin qui va être le représentant de Chirac. En réalité, Chirac ne pouvait pas accepter un ministère de la coopération, ça aurait été dérisoire, mais il a mis un homme de confiance absolue sur lequel il sait qu'il peut s'appuyer complètement et qui en plus a toutes les entrées possibles, imaginables, du fait qu'il a été le sous-patron du SDEC, toutes les entrées possibles dans tous les pays de l'Afrique francophone. Ça, c'est un poste très important pour les semaines et les mois à venir.
Voilà, qu'il y a une région où il y a beaucoup de changements.
C'est un Tchernobyl continental et politique qui est en train de se préparer. Il n'y a pas un pays d'Afrique noire à l'heure actuelle qui ne soit pas en proie à une agitation meurtrière,
à la guerre ethnique,
à l'exception du Sénégal, si on compte pas la Casamance, puisque la Casamance est en ce moment aussi entretue joyeusement, mais le Sénégal est à l'exception de la Casamance, c'est un havre de paix en Afrique. Tout le reste, c'est un incroyable, on est obligé de dire le mot, c'est un incroyable merdier.
Et ça peut arriver très vite. Bon, personne en 81 aurait cru que pendant 10 ans, on allait parler pratiquement tous les jours de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et puis ça a pété.
Oui, ça a pété. Ouais. Alors, il y a une question que je me pose. Est-ce que Pasqua n'a pas quand même le mauvais œil? Est-ce qu'il n'a pas une chkoumoune terrible? Parce que je rappelle qu'en 86, il était ministre de l'Intérieur, il s'est passé la fameuse affaire du jeune Malik Oussekine, qui a provoqué un véritable cataclysme politique. Et là, il arrive au ministère de l'Intérieur. Bon, il y est évidemment pour rien, parce qu'il est là depuis une semaine. Mais enfin, au bout d'une semaine, il y a quand même deux bavures mortelles, deux policiers qui ont tué des jeunes délinquants. Aujourd'hui, là, à l'instant, en ce moment même, SOS Racisme, qui a sauté sur l'occasion pour se refaire la cerise parce que ça allait très très mal, est en train de manifester devant le commissariat du 18e arrondissement. Donc visiblement, là, on va assister à une remobilisation de la gauche immigrationniste contre la police de Pasqua et tout. Est-ce que Pasqua porte pas malheur à la police? On peut se poser la question, non?
Je sais pas, ils ont publié un communiqué demandant aux policiers de garder leur sang-froid. Il y a peut-être eu un petit relâchement. Il y a peut-être eu un petit relâchement dans les commissariats.
Ils ont cru que c'était arrivé, c'est ça que vous voulez dire? Ils ont dit, je sais pas. Mais en particulier, on peut cogner chef, comme disait Rezer.
En particulier dans le 18e arrondi, où il y a une délinquance immigrée énorme.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de délinquance.
Et on leur rit au nez toute la journée. Il suffit. Moi, je passe pratiquement tous les jours au métro Barbès, il y a le marché aux voleurs qui se tient là de 6h du matin à 2h du matin.
La semaine dernière, il y a eu une rafle au marché aux voleurs. Vous savez, ils ont raflé 150 personnes qui étaient là. Il y avait 60 immigrés clandestins.
Il n'y avait aucun objet volé. C'est étonnant.
Oui, pas du tout de voleurs. C'est le marché aux voleurs où il n'y a pas d'objet volé. À propos de Balladur, une nouvelle interprétation du nom de M. Balladur. Je voudrais rassurer une auditrice qui nous dit « Je ne comprends pas la hargne dont fait preuve Beketch à l'égard de M. Balladur. Tant de critiques après si peu de jours de gouvernement, c'est trop... Bon, on ne fait pas de critiques, on dit qui il est. On ne peut pas dire que... on ne l'a pas attaqué, je trouve pas l'impression.
Non, plutôt on a dit qu'il se débrouillait très bien.
On a dit que c'est vous qui avez dit
très
ça.
Finement.
C'est vous, Emmanuel Ratier. Moi, j'ai rien dit de tel. Donc, je disais, explication de texte, M. Balladur, c'est Bahadur, le fort, le vigoureux, en persan. Ah. Donc, c'est à la fois le nouveau Prométhée, le fils d'Odin Balder, c'est le baladin, et c'est l'homme fort et vigoureux.
Bon, lui, avec un... Ah, puis vous avez dit Balder.
Balder, oui, c'est ça, Balder, le fils d'Odin. Donc Balder, le baladin et l'homme fort, avec ça, s'il ne réussit pas, c'est vraiment... c'est à désespérer de la toponymie.
Oui.
Ou de de l'onomastique. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est pas la toponymie. Comment se porte la galerie de tableaux de Mme Toubon, demande une auditrice qui est probablement mal inspirée.
Non, pas du tout. Non, c'est tout simplement parce qu'elle a été, pendant plusieurs années, je ne sais pas si elle a toujours, mais elle était associée dans une galerie assez connue qui... poussait des artistes qui faisaient de l'art contemporain. Elle a fondé une association dans le 13e arrondissement dont son mari est élu pour faire des happenings, des démonstrations. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans une galerie. Voilà, elle a lancé une association qui s'appelle le 13e art, parce qu'elle est dans le 13e.
Ah, voilà. C'est très raptable, non?
Non.
Non, c'est pas.
Enfin, c'est. Non, c'est plus choisi, on est moins peuple.
Bien. À propos de Pasqua, toujours, cette nomination de Jean-Claude Barrot, c'était assez inattendu. Moi, ça me paraît une assez bonne idée, puisque c'est un homme de gauche qui tient des propos de droite. C'est quand même pas mal de le prendre dans son,
oui, surtout
dans
que
son
lui,
cabinet.
Surtout que lui, il en a vraiment dit plus que pratiquement aucun homme de droite, sauf des gens tout à fait remarquables, comme Jean Mottin ou Maurice Allais. Ça a été un des seuls à dire qu'il y avait une immigration clandestine incroyable en France, et qu'on a constaté là dernièrement, il y a déjà un problème, enfin je sais pas si vous en avez déjà parlé à la radio, mais c'est assez récent, bon, c'est l'affaire du contrôle des fichiers de la Sécurité sociale de Paris par les renseignements généraux. Ils ont examiné, il y avait tellement de fraude, ils ont examiné 2400 dossiers de gens déclarés, c'est-à-dire dont les employeurs payent les charges, ils sont déclarés auprès de la Sécurité sociale, ils sont... pas d'employés clandestins, comme on en trouve dans le sentier, par exemple. Ce sont des gens, et bien sûr, 2400 personnes, il y avait 800 cartes de séjour qui étaient fausses, c'est-à-dire 36%. C'est-à-dire que 36% des travailleurs immigrés de région parisienne, on peut considérer que 2400, c'est un bon chiffre.
Oui.
Ça commence à être un élément...
Pour un sondage, c'est un
ça commence à être un élément
significatif.
Oui. Enfin, je vous dirais, ils auraient fait plus, mais à la Sécurité sociale, on leur a dit d'arrêter, parce que ça devenait inquiétant. Bon, et vous avez 36% ou 38% des travailleurs immigrés déclarés, donc des gens qui travaillent, qui sont des clandestins en réalité. Alors là, je crois que M. Pasqua va effectivement avoir du pain sur la planche, comme M. Barrot et Mme Veil.
Je ne peux pas résister quand même au plaisir de citer un auditeur qui, toujours à propos de Balladur, nous dit « Mais est-ce qu'il ne serait pas de la famille de Balladur von Chirac ?» Bon, évidemment, c'est un gag. Je précise. Maintenant, il faut dire que c'est un gag, parce que vous savez qu'il y a des oreilles qui nous écoutent, qui sont... Il paraît que les murs ont des oreilles, mais je peux vous dire aussi que les oreilles ont des murs, ça c'est parfaitement clair. Et il y a des oreilles qui nous écoutent, et qui sont pas les oreilles très formées au deuxième
degré. Non, mais il faut savoir que pour Baldur von Schirach, qui était le chef de la jeunesse hitlérienne allemande, Baldur c'est Balder, hein. C'était l'origine qui était donnée par une lectrice tout à l'heure, mais c'est le prénom. C'était un prénom qui est porté en Allemagne.
Alors, à propos de Nicolas Sarkozy, une auditrice me fait remarquer qu'il signait son courrier avec le N de son prénom suivi de 3 points, ce qui tendrait à prouver que... Et maintenant, il a donc changé cette signature, il signe N2. Sarkozy. Il a supprimé un des points.
Ce qui ne veut plus rien dire.
Ce qui ne veut plus rien dire. Ah oui, oh là là, j'ai dit un truc. J'ai dit que tous les Antillais étaient francs-maçons. Non, c'est pas tous, c'était une plaisanterie. C'est vrai que Huguette Fatna, qui est secrétaire du cercle des Dom-Tom, je crois, au Front National, elle n'est pas du tout franc-maçon.
Non, mais il est certain que c'est dans des régions de ce type, comme en Afrique, la franc-maçonnerie a en général été un facteur d'intégration à l'intérieur de la sphère politique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élites qui se retrouve dans les cercles maçonniques, mais c'est comme en Nouvelle-Calédonie, enfin bon, mais ça n'a rien de particulier, voilà. C'est une espèce de Rotary.
Un auditeur me dit, vous ne faites pas de fixation sur les Antillais francs-maçons, ils ne sont pas tous des bambucs. Oui, c'est vrai, je dis une bêtise là. voilà. De la Grèce antique à l'huile de cire, il y a pas mal de chemin, nous dit un auditeur, je ne sais pas pourquoi, une auditrice, je ne sais pas à quoi elle fait allusion, mais je trouve ça assez drôle comme... comme expression. Outre M. Longuet et M. Madelin, demande un auditeur, y a-t-il au gouvernement d'autres personnes qui ont soutenu le Front National?
Je ne savais pas qu'ils avaient soutenu
moi
le Front
non
National.
Plus. Non,
je crois que cette dame veut dire, est-ce qu'il y a l'ancien militant
nationaliste?
N'hésitons pas à le dire, d'extrême droite.
D'extrême droite.
Bon, mais moi, mon but n'est pas de les dénoncer. De toute façon, je crois qu'ils ont beaucoup changé d'idée. Mais en tout cas, j'ai regardé, ils pourraient constituer un intergroupe parlementaire. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup.
Oui, il y en a quelques-uns.
Moi, j'en ai identifié une bonne vingtaine. Donc, ils pourraient se constituer en groupe face au Parti communiste, pour être amusant.
Alors, il y a pas mal de questions sur le deuxième tome de votre encyclopédie politique. Pour quand? C'est pour avant le troisième millénaire?
Non, il n'y a aucun problème. Non, il se trouve qu'actuellement, je travaille sur d'autres sujets, parce que ça m'a quand même coûté très cher à éditer, puisque je le fais moi-même et je m'occupe de tout. Bon, donc je peux pas à la fois faire les paquets et écrire. Donc ce que je suis en train, c'est en ce moment, je suis en train de terminer un nouveau dictionnaire des pseudonymes. Henri Costand avait publié 4 tomes, il y avait à peu près 7000 noms au total. Et là, j'en ai terminé un qui devrait paraître d'ici un mois et demi, dans lequel il y aura 6000 nouveaux noms, dans lequel on apprendra pas mal de choses. Donc c'est un nouveau dico des pseudonymes, dans lequel il y aura quelques révélations assez amusantes. Enfin, si vous avez l'occasion de m'inviter, on pourra en parler.
Là, okay, comment, bien
et
sûr,
puis, je travaille sur un ouvrage explosif, mais totalement secret, donc j'en parlerai pas plus, qui sortira dans 6 mois. Et actuellement, je commence à travailler effectivement à la suite du dictionnaire, qui paraîtra pas avant deux ans, à mon avis, parce qu'il m'a fallu 2 ans pour rien, mais ne vous inquiétez pas, il paraîtra. Et il sera aussi complet que l'autre.
Alors, avant d'acheter le tome 2, on peut déjà, d'ores et déjà, et sans désemparer, sans attendre, acheter le tome 1, parce que c'est remarquable, c'est pas des notules ou des notices un peu rébarbatives, comme il peut y avoir dans le Wouzou, c'est vraiment très, très, c'est bourré, on en a parlé de documents, de révélations, de petits détails amusants, etc. Ça s'appelle l'Encyclopédie politique française, ça vaut 485 francs, mais vraiment, vous n'aurez pas perdu votre argent. Et on peut se le procurer en envoyant donc un chèque de 385 francs plus
400.
De 485 francs plus 30 francs d'emballage et de port, ce qui nous fait un total de 515 francs. On envoie un chèque de 515 francs à Faits et Documents, boîte postale 400-01, 75-025 Paris, SEDEX 01.
Si j'ai une minute.
Oui.
Oui, je voudrais seulement préciser que j'avais essayé de le mettre en vente à la FNAC.
Oui.
Que disons que je toucherais des gens que j'avais pas l'habitude de toucher, parce que enfin, je connaissais pas, etc. Bon. Alors, je précise que ce livre n'a fait l'objet d'aucune poursuite, d'aucun procès. J'ai pas reçu une seule lettre recommandée de personne. Il y avait des erreurs factuelles, mais des petits détails. Bon. Je n'ai pas reçu une seule lettre. Et ben, au bout de 2 mois, il a été retiré de la FNAC. La FNAC m'avait acheté les livres. Ils me les ont renvoyés, ils ont préféré me payer et me renvoyer les 4 derniers bouquins parce que il paraît que ça rappelait de mauvais souvenirs. Alors, ils m'ont dit ça au
téléphone. Les heures les plus sombres de notre histoire.
Voilà, les heures les plus sombres de notre histoire. Et la fille était totalement incapable d'aller plus loin que ça.
Ouais, ben ça
voilà. Donc ça, c'est la FNAC.
Merci Emmanuel Ratier. À bientôt devant ce micro pour d'autres révélations sur le petit monde politique.
Je vous remercie.
Je suis obligé de répondre à des auditeurs qui appellent, parce que j'ai dit au cours de la conversation précédente que j'étais d'origine hongroise. Alors les auditeurs s'affolent en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a ? On croyait que vous étiez d'origine russe. » Alors je vais tout vous expliquer. Il y a même un auditeur qui dit « Est-ce que vous êtes d'origine juive ?» Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est un juif. Je ne sais pas ce que c'est d'être d'origine juive. Je ne vais pas à la synagogue, si c'est ce que vous voulez savoir. Voilà. Mais je vais à l'église, à Saint-Eugène d'ailleurs, qui est quand même assez éloignée d'être une synagogue, encore que c'est dans un quartier où il y en a beaucoup. Alors en ce qui concerne ma famille, c'est très intéressant, vous allez voir, c'est absolument fascinant. Effectivement, du côté de mon père, les très lointaines origines de la famille sont hongroises. Et puis au moment des guerres ottomanes, la famille est partie s'installer en Russie. Donc c'est une famille qui est de très lointaine origine hongroise et d'origine russe, enfin par la suite qui est devenue russe. Ma grand-mère maternelle était d'origine tatare de Crimée, elle était tatare de Crimée par son père, mais sa mère, elle, était d'origine polonaise. Vous voyez. Quant à ma maman, elle est née en Bourgogne d'un père alsacien, il s'appelait monsieur Igel, et sa mère était bourguignonne. Mais la grand-mère de mon grand-père était bretonne, elle était de Cancale, ou du Pouldu, ce qui n'est pas très loin. Et elle avait un frère qui s'appelait Clouet, qui était l'amiral Clouet, qui a été ministre de la marine de Jules Ferry. Je peux continuer pendant 2 heures, si vous voulez, comme ça. Donc maintenant, vous savez tout de mes origines. Enfin, tout ce que moi je sais, parce qu'en réalité, vous savez, hein, tout ça, voilà. Donc, c'était intéressant, non ? Ça vous a intéressé, monsieur ?
Oui.
Merci, mon général, d'avoir manifesté cet intérêt pour ces choses qui n'en ont aucun, contrairement à votre livre.
Ah oui, on dit sur TF1, un cousin de Jacques Rozeau a déclaré que le groupe d'assassins était proche du Front National. On a parlé aussi de Gaulle accusant l'OAS. Alors, je n'arrive pas à lire. Sur Antenne 2... Non, j'arrive pas à lire non plus, je suis désolé. En tout cas, voilà, bon, ben, c'est ce qui avait été dit... Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on veut lier le Front National à cette affaire, alors que les supposés assassins de Rozeau, les présumés assassins de Rozeau, appartiennent à une association qui, je le rappelle, n'a pas cessé de montrer sa violente hostilité au Front National, allant jusqu'à soutenir une liste qui était dirigée par un communiste. Ce qui n'est pas une liste électorale qui était dirigée par un communiste, ce qui n'est pas la marque d'une grande sympathie pour le Front National. Et puis de plusieurs auditeurs me demandent de faire un point sur le journal que je prépare. Alors, je ne saurais mieux dire que si on veut en savoir plus, on peut lire une interview remarquable de votre serviteur qui a été publiée par Pas de Panique, le dernier numéro qui est en vente dans tous les kiosques au prix de 10 francs. Le journal est très avancé, il y a tous les collaborateurs qui ont été annoncés, c'est-à-dire le professeur Lugan, Nathalie Manceau, Pierre Monnier, ADG,
Anne Brassier, Jean-Cyril Vantavon,
Joseph Grec, Claude Reichmann, qui encore, on en oublie certainement, donc, enfin toute l'équipe. Le journal sera... Jérôme Brigadier, bien sûr, Jérôme Brigadier qui fait les spectacles. Donc le journal sera prêt... je pense d'ici une semaine. Il sera dans les boîtes aux lettres d'ici une dizaine de jours. Et bah, vous verrez. Tous ceux qui nous ont envoyé leur adresse, tous ceux qui nous ont envoyé des abonnements anticipés au tarif de 490 francs ou plus, le recevront. Si vous voulez le recevoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez envoyer un abonnement anticipé de 490 francs ou plus. Mais vous pouvez aussi envoyer moins, parce que je comprends parfaitement que la somme puisse arrêter certains. Donc si vous, on vous servira l'abonnement au prorata de la somme envoyée. Pensez quand même que si vous envoyez 10 francs, ça va compliquer énormément les problèmes, nos problèmes de comptabilité qui sont déjà gigantesques. Alors, l'adresse est 68 rue David d'Angers et le chèque est à libellé à SDB. Qui est société de je sais pas quoi, DB, SDB, voilà. SDB. Essayez de deviner pourquoi ça s'appelle comme ça. Bonne semaine, à mercredi, pardon, à mercredi prochain, que Dieu nous garde. Notre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs.